Aujourd'hui, mercredi 28 octobre 2015, nous avons la grande joie de recevoir le professeur Christian Billet sur le campus de Tulane à la Nouvelle-Orléans. Christian Billet a gentiment accepté de répondre à quelques questions sur son approche pédagogique pour le compte du site SI17. Christian Billet, bonjour. Alors, pourriez-vous nous expliquer comment se déroule une séance typique de l'un de vos cours ?
Alors, ça dépend entièrement du type de cours. Entre les cours pour la licence, d'une part, les séminaires, de l'autre, et selon que ça se passe en France ou aux États-Unis, en troisième lieu. Alors, si on prend le cas français d'un cours de licence traditionnel, il faut déjà imaginer qu'au lieu de 12-13 étudiants, comme on peut avoir au maximum aux États-Unis, ils sont entre 45 et 50. Donc ça change beaucoup de choses, compte tenu du fait qu'ils ne peuvent pas tous intervenir, et que si on souhaite qu'ils interviennent, il y a évidemment beaucoup de monde qui doit le faire. D'autre part, ça dépend aussi du format des cours. On a en effet parfois des formats de cours magistraux, et à ce moment-là, on est censé s'exprimer pendant une heure ou deux heures d'affilée, sans que les étudiants interviennent. Ça, ce sont des cours où il y a un minimum de 100 à 110 personnes qui assistent aux cours d'amphithéâtre, ça s'appelle, et qui, il y a donc, ça, ce sont des cours magistraux. Et puis, il y a ce qu'on appelle les travaux dirigés, les TD, où là, ils sont en effet entre 40, 45, 30 parfois, mais c'est très rare. Alors là, pour ces cours-là, il peut y avoir un système d'interaction, il doit donc y avoir un système d'interaction. Et l'idée est en effet que les étudiants arrivent avec leur propre travail, généralement qu'on a préparé à l'avance avec eux, et qu'ils le développent et qu'on le commente. Ou inversement, je commence par dire un certain nombre de choses et je commente ensuite avec les étudiants. En troisième lieu, pour ce qui est des séminaires, alors là c'est tout à fait différent, puisque dans les séminaires, on est parfois beaucoup, hein, le problème n'est pas là, mais où là la parole doit absolument tourner, un petit peu comme ce qui peut se passer dans les cours américains, sauf que dans les cours américains, il y a moins de monde, ça c'est clair. Peut-être ce que je voudrais dire, c'est que la différence... C'est bon ? Ouais. La différence que moi j'ai mis en place ou que j'ai senti et qu'à partir de là qui déteint un peu sur mes cours en France, c'est que les premières fois où j'ai enseigné aux États-Unis, je me suis aperçu qu'il était absolument nécessaire de justifier ma présence d'une part et le sujet sur lequel j'allais essayer de m'exprimer pendant le cours. En d'autres termes, en France, mettons que vous fassiez un cours sur Corneille, vous ne justifiez pas, en tout cas c'est ce que je pensais avant, le fait que vous alliez faire un cours sur Corneille. Et puis je me suis aperçu, il y a donc une quinzaine d'années, un peu plus de ça, aux États-Unis, que c'était pas possible de faire ça du tout. Et que, avant de commencer, il fallait dire pourquoi on avait envie de faire un cours sur Corneille, ce que ça allait apporter aux étudiants, comment on allait faire ce cours, bref, de justifier sa propre présence. Et c'est finalement ça que j'ai appris aux États-Unis, que ce soit à NYU, que ce soit à Tulane, que ce soit ailleurs, c'est d'être là et de dire pourquoi je fais ça. Et j'ai pris l'habitude de le faire aussi en France, pour que les étudiants français puissent essayer de comprendre en effet pourquoi on est là et pourquoi eux-mêmes sont là. Donc ça c'est peut-être une chose essentielle qui permet justement peut-être après une meilleure interaction entre le cours que on fait, qui n'est pas délivré comme ça, comme une sorte de saut merveilleux et splendide de communication à sens unique, et au contraire, qu'il puisse y avoir quelque chose qui est de l'ordre du débat, en sachant que quand même, nous sommes là pour arriver avec un savoir, puisque nous avons un savoir à délivrer, et que ce savoir peut être ensuite discuté, mais qu'il y a bien savoir. Sur ce point, il n'est pas question de transiger. Il y a bien des enseignants et des enseignés. Simplement, les enseignés ont la parole, et ce qui me paraît tout à fait normal.
Merci. Alors, pour rester dans les techniques pédagogiques, pourriez-vous nous dire quel devrait être, selon vous, le rôle du professeur dans la poche critique d'un document vis-à-vis de ses étudiants, et quel message essentiel vous essayez de faire passer à vos étudiants ?
Alors, peut-être précisément l'abord critique d'un côté et la curiosité de l'autre. Peut-être que la première chose qu'on a en face d'un texte ou d'un document, qu'on doit avoir en face d'un texte et d'un document, c'est toujours se demander d'où vient ce document, comment il a été conçu, quelle stratégie il suppose, et c'est le point essentiel, tout document historique, quel qu'il soit, est à mettre en rapport avec les stratégies et de composition et d'utilisation du document même. Ça, c'est un point absolument essentiel. Et dans un système synchronique, c'est-à-dire au moment où le document est conçu et au moment où il est lu. Et deuxièmement, dans un plan diachronique, c'est-à-dire quand le document est lu, par exemple, un document du XVIIe siècle, maintenant, et comprendre cette différence critique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la curiosité. En effet, le problème quand on utilise des documents ou quand on a envie de travailler sur des documents, c'est d'abord d'essayer de trouver des documents qui vous donnent tort, c'est-à-dire qui ne sont pas là pour conforter le point de vue initial que vous avez. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver tout ce que vous pouvez faire, pour, non pas aller contre votre point de vue, mais essayer de discuter, au fond, avec la base documentaire, pour voir comment vous pouvez construire, non pas une vérité, mais une possible interprétation ou des possibles interprétations à partir de la masse de documents de toutes sortes, iconographiques, textuels, juridiques, judiciaires, etc., que vous pouvez trouver. Et que vous devez donc à la fois mettre en doute et chercher. Et chercher, bah, c'est pas dur, il faut aller en bibliothèque, il faut aller dans les archives, il faut compulser des tas de choses, perdre infiniment de temps pour trouver parfois des trésors, mais tout l'intérêt, c'est aussi de perdre du temps.
Merci. Je souhaiterais poursuivre l'interview en abordant la question des documents supportant vos cours. Tout d'abord, sur quel type de texte ou de document travaillez-vous prioritairement ? Et est-ce que vous avez un nombre déterminé de textes que vous abordez chaque semestre avec vos étudiants ?
Alors d'abord, comme j'enseigne plus le théâtre que la littérature, je suis amené forcément à avoir des documents iconographiques, des DVD pour les mises en scène contemporaines, tout autant que des documents textuels qui peuvent être ou des pièces de théâtre publiées ou d'autres documents textuels qui sont ou paratextuels, c'est-à-dire des textes critiques par exemple, ou toute autre sorte de choses. Donc en gros, je suis amené à utiliser un système, on dirait, multifonctionnel, multimédia, à la fois pour présenter ce que c'est qu'un bâtiment de théâtre, peut-être quelques images pour savoir comment on le joue, un troisième élément, le livre à proprement parler, quatrième, ce qu'on en dit, ce qu'on dit de la mise en scène, cinquièmement, des passages de mise en scène différentes selon les mises en scène de Tartuffe par X, Y ou Z. Bref, tout ça fonctionne, si vous voulez, en fonction de la démonstration qu'on peut avoir et de la discussion qu'on peut avoir, ou sur le texte lui-même, ou sur son moment de production, ou au contraire, sur la mise en scène par elle-même, pour autant qu'on puisse avoir les documents là-dessus. Alors, quant au texte primaire, aussi bien en France qu'aux États-Unis, on a en effet, pour les cours, on va dire, de littérature théâtrale, plus que de théâtre à proprement parler, recours donc à des textes. Alors, ça va dépendre absolument du type de cours et du type de cours séminaire et de la capacité des étudiants et de leur capacité à lire. Mais en gros, on a un minimum, surtout pour ce qui est des pièces de théâtre, pour un cours d'un semestre qui fait à peu près donc 14 séances aux États-Unis et 12-13 en France, on va dire un minimum de 7, c'est-à-dire 2 par semaine quand les séminaires sont sur une même semaine, 2 par semaine, ou enfin un minimum de 7, ça va de 7 à 10-12 quoi.
Enfin, je voudrais vous poser quelques questions sur votre approche de la performance, notamment au XVIIe siècle. Donc, en tant que spécialiste de la performance, comment abordez-vous cette matière particulière dans vos cours ? Comment sensibilisez-vous vos étudiants à ce thème ? Plus particulièrement au XVIIe siècle, vous travaillez sur un matériau qui n'est pas immédiatement disponible et qui demande à être constitué. Quelles sont les difficultés propres à cette approche ?
Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que l'idée de performance, c'est-à-dire simplement l'idée qui consiste à dire que on a des corps sur scène à un moment éphémère et que leur présence compte avant tout comme présence à proprement parler, que ces corps sont à la fois sur scène et en même temps ceux des spectateurs. Tout ça, c'est un travail qui est à la fois théorique et historique, au sens où on est bien obligé, lorsqu'on décrit un bâtiment de théâtre, que ce soit au XVIIe siècle ou au XIXe ou au XXe ou au XXIe, de tenir compte des systèmes d'interaction qui se mettent en place à ce moment-là. Et là, c'est vrai qu'au XVIIe, on a un certain nombre de choses à apprendre de cette époque-là, et en particulier dans le comportement des gens qui assistent au théâtre. Donc la performance, c'est non seulement celle des comédiens, et on peut savoir un certain nombre de choses sur la manière dont ils jouent, on a des documents pour ça. C'est pas parce qu'on n'a pas d'images et de DVD qu'on ne peut pas savoir des choses. Et souvent, d'ailleurs, si je puis me permettre de faire une petite incise, les étudiants, aussi bien en France qu'aux États-Unis, vous disent « je ne peux pas travailler sur le théâtre du XVIIe parce que, évidemment, je n'ai pas de film, ou je ne peux pas travailler sur telle ou telle mise en scène contemporaine parce que je n'ai pas de captation ». Et j'essaie de leur expliquer qu'en fait, la captation est parfois trompeuse, c'est-à-dire qu'elle ne représente, elle ne figure qu'un moment possible d'une pièce de théâtre jouée à un moment donné, un soir particulier, devant une caméra particulière, et qu'on a besoin beaucoup plus de documents textuels, iconographiques, juridiques, pour savoir un petit peu comment les choses se sont passées, donc comment les véritables performances se sont mises en place, plutôt que d'avoir les images qui, généralement, elles-mêmes sont trompeuses. Donc, fin de l'incise. Donc, si vous voulez, l'idée même de parler de la performance, c'est peut-être justement de prendre un tout petit peu de distance vis-à-vis de la question du texte et de non pas renoncer à la littérature, mais de considérer que le texte littéraire est un des éléments possibles du savoir possible et de la réflexion qu'on peut avoir sur le théâtre à un moment donné de son histoire. Donc, si moi j'ai été habitué pendant des années, en effet, à avoir un abord littéraire du texte de théâtre, depuis, disons, une vingtaine d'années maintenant, que j'enseigne le théâtre dans des départements d'études théâtrales en France, bien, je suis amené à considérer que le texte n'est pas forcément uniquement un prétexte, mais est une des composantes de ce que peut être le travail théâtral. Et c'est dans cette réflexion même que j'amène les étudiants à penser. Et la manière dont, par exemple, on peut commenter un texte de Molière, ce n'est pas seulement d'un point de vue littéraire, mais simplement du point de vue de l'occupation de l'espace. Molière pense l'occupation de l'espace au fur et à mesure qu'il écrit. Et à partir de là, on peut avoir une idée du jeu théâtral, non pas dans son détail, non pas dans la posture même, mais du jeu dramaturgico-théâtral de Molière ou d'autres auteurs de ce type qui pensent le théâtre sur scène. Inversement, des gens comme Corneille ou a fortiori Racine ont un point de vue moins pratique, moins spatial du théâtre, et ça vaut le coup d'en parler dans ces conditions-là.
Alors la question finale que je voudrais vous poser est la suivante. Votre approche pédagogique de la performance est-elle différente en fonction du cadre académique dans lequel vous enseignez ? Par exemple, enseignez-vous d'une façon différente si vous êtes dans un département de littérature ou alors si vous êtes dans un département des arts du spectacle ?
Alors, moi, j'enseigne pas tellement de manière différente selon l'endroit où je suis. En revanche, je sais que c'est moins admis que je mette les étudiants debout pour leur faire interpréter ou jouer des textes dans un département de littérature que dans un département de théâtre où, là, a priori, ça fait partie du jeu. Alors, néanmoins, je pense que, y compris dans les départements de littérature théâtrale, enfin, les départements de littérature où on enseigne le théâtre, il est très important de mettre, comme je le disais précédemment, la littérature non pas à l'écart, mais en la mettant comme l'un des éléments possibles pour observer le théâtre. Le texte est essentiel, nous sommes d'accord, tout autant essentiel que la gestuelle, tout autant essentiel que la parole, tout autant essentiel que la présence du public ou la présence des spectateurs. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Bon. Pour autant, produire un texte de théâtre, écrire un texte de théâtre, publier un texte de théâtre, ça vaut une analyse spécifique et à part entière, qui est une analyse à la fois littéraire, historique et matérielle, puisque le théâtre, ce n'est pas seulement une scène, c'est aussi parfois un livre. Un livre à considérer comme tel, avec des blancs, avec une typologie d'écriture, avec un système de représentation spatiale particulier, qui n'est pas semblable selon les époques. Au XVIe siècle, on ne publiait pas le théâtre de la même manière qu'à la fin du XVIIe ou que maintenant. Donc il y a toute une réflexion à faire aussi sur le livre de théâtre et sur l'écriture théâtrale à proprement parler. Qu'est-ce que c'est qu'une didascalie, par exemple ? Qu'est-ce que c'est qu'une didascalie ? Est-ce que c'est simplement un ordre ? Ou est-ce que c'est un travail littéraire à proprement parler chez Diderot ou chez Beckett ? Ce sont des questions qui valent la peine d'être posées, aussi bien dans des départements de littérature que dans un département d'études théâtrales. Mais à ce moment-là, en prenant conscience de l'écriture, en prenant conscience du texte et de sa matérialité textuelle, qui est le livre. Donc, c'est au fond, en serrant les problèmes, en sachant que le théâtre, c'est à la fois un lieu dans lequel il y a une performance, et en même temps, ça peut être aussi autre chose, c'est-à-dire un livre dans lequel, par lequel on imagine une performance possible, qu'on peut réunir, je crois, les différents aspects des études théâtrales, en n'étant pas dans l'idée qu'on doit opposer un textocentrisme et un scénocentrisme. Les deux doivent aller de pair, puisque les deux constitue à proprement parler l'objet théâtral.
Merci beaucoup, Christian Billet. À bientôt.
Merci.